Alex Leblon, planificateur financier, 16h40. Comment ça va, man?
Ça va, vous autres?
Ça te fait bien, ce casquette-là, de boulevard 102.1?
Hey, man, moi, du stock gratis de même, là. Ça me rend tellement
heureux.
Tu peux
moins dire que t'as trouvé belle et que t'es fière, s'il te plaît, Alex.
Ah ouais, c'est ça, je veux dire.
Tes chansons, on a payé pour les notes.
C'est vrai?
C'est vrai.
Ouais, ben, mais mettons que t'en veux une pour tes enfants ou même deux, là. Ouais, ils nous font payer à partir de la deuxième. Fait que demande-en pas deux.
Ah ouais.
T'es averti.
Fait que toi, c'est là que tu règles tes comptes. Là.
Ouais, 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 ouais.
T'es tout le temps en onde. De...
Toujours, toujours, toujours. Ça fait que mes collègues m'apprécient grandement. Alex, ça va bien?
Ça va, ça va.
Aujourd'hui, on prend les questions du public. Ouais, ouais, on décide de tendre la perche parce que, veut, veut pas, tous les sujets qu'on jase, ça amène des questions. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un genre de melting pot. Fait qu'on vous le dit tout de suite. Si vous avez des questions au niveau économique, au niveau finance, 418-971-1021.
Ou encore sur notre Twitch. .tv, vous cherchez Boulevard Barentou FM.
Gênez-vous pas. D'ailleurs, la gang du Twitch, on vous salue. Vous êtes des privilégiés aujourd'hui.
Vous êtes à la clim.
Vous êtes vraisemblablement tous à l'air climatisé.
Il n'y en a pas un qui s'est obstiné en disant non, non, moi, je suis dehors en train de faire de l'asphalte.
Le télétravail, ça se fait au frais. Twitch.tv, la chaîne BLVD Barentou FM. D'ailleurs, je suis quand même curieux. C'est quoi la question, Alex, que tu te fais poser le plus souvent par les gens qui rentrent dans ton bureau, mettons? Là.
La question qui revient plus souvent, puis c'est, je sais pas si c'est parce que les taux ont augmenté pour les hypothèques au cours des deux dernières années, là, c'est toujours, OK, j'ai de l'argent disponible, je suis mieux de prioriser remboursement anticipé de mon hypothèque ou mettre de l'argent dans les placements.
Ah, ben oui.
Puis en même temps, c'est normal, parce que tu as les deux opportunités, puis on connaît rien là-dedans, puis on sait pas c'est quoi qu'il faut prioriser. C'est quoi la réponse à cette question-là?
Il y a un principe de base, il a l'air super niaiseux ce principe-là, là, mais il est dur à mettre en application. C'est la pièce que je dépense, là, je peux la dépenser une seule fois. Si jamais sur X, jamais pas sur Y. Fait que tu sais, ça a l'air niaiseux, mais OK, la pièce-là, si je veux la faire travailler le plus possible, qu'est-ce que je fais? Fait que ce que tu regardes, là, c'est les taux d'intérêt essentiellement. Si je m'enrichis plus vite que je m'appauvris, tu sais, si mon rendement possible sur mes placements est supérieur à celui de ma dette, ça vaut la peine de prioriser le placement. Si c'est le contraire, ça vaut la peine de prioriser un remboursement de dette.
Okay.
On peut parler d'une hypothèque, mais c'est la même chose pour une carte de crédit, mettons. Si tu as une dette de carte de crédit qui traîne puis que, regarde, tu as 8, 9, 10 000 là-dessus, crime, ton taux est à 19 %. Laisse faire les placements. Mettons que tu as une espérance de rendement dans tes placements, un 100 % action là, à 8, 9, 10 %, tu t'appauvris quand même plus vite que tu t'enrichis. Fait qu'au net, t'es perdant. T'sais. Fait que le calcul n'est pas parfait. Les hypothèques, il faut toujours se rappeler que le taux de l'hypothèque, là, ça, c'est rare qu'on en parle, mais le taux que la banque monte, là, c'est pas un taux annuel. Ça. C'est un taux semestriel. Fait qu'il faut que tu fasses attention quand tu fais tes calculs. Personne ne sait pourquoi c'est un taux semestriel. C'est juste que ça donne que sont présentés de même. C'est pas un 2 pour 1. Là. Le calcul est plus complexe que ça, là, mais il faut que tu annualises tous tes taux là, pour que tu compares des pommes avec des pommes. Là, puis tu as ta réponse. T'sais, fait que mettons des clients qui ont vraiment pas beaucoup de tolérance au risque dans leur placement, probablement que ça vaut la peine d'étudier le remboursement anticipé d'une hypothèque plus que quelqu'un qui serait dans un portefeuille plus audacieux.
Puis de ce que je comprends, la réponse, ça peut changer une couple de fois dans la même année aussi. Là.
Elle peut changer. Mais tu sais, ton taux, si on considère l'hypothèque, tu sais, ton taux hypothécaire, il change une fois aux 3 ans, une fois aux 5 ans, dépendamment du terme que tu prends. Là. Mais tu vois, moi, j'en ai un client que... il est vraiment hyper averse au risque. Là. Puis t'as bien beau y montrer les 150 dernières années des marchés. Si tu veux rien savoir, parfait, c'est bon. Tu vois, lui, probablement, tu sais, son hypothèque est à renouveler en janvier. On lui fait une stratégie pour qu'il soit liquide à ce moment-là. Puis probablement que c'est ce qu'on va faire. Mais mes clients qui sont dans des portefeuilles bien plus audacieux, que là, je sais que leur gain potentiel est beaucoup plus haut que leur dette potentielle.
Okay.
Ça vaut pas vraiment la peine. Rendu là, c'est toujours du cas par cas, mais la règle du pouce, là, c'est ça.
Alex, c'est une question qui revient beaucoup parce que veut, veut pas. C'est une réalité qui a pas mal changé dans les 10-15 dernières années parce que c'est rendu plus difficile d'accéder à la première propriété. Comment tu peux savoir ta capacité d'emprunt pour l'achat d'une propriété?
Il y a un paquet de manières d'aller chercher ça. Moi, ma recommandation, là, ce serait, fais-le pas faire par ta banque. Fais-le faire par un courtier hypothécaire. Puis je sais, je peux même faire une plug à un de vos clients. Là. Ben, je sais que son client chez Leclerc, là, MRL,
oui,
qui sont des courtiers hypothécaires, là, sont écœurants. Puis eux autres, là, ils n'ont pas de parti pris pour TD ou pour Desjardins ou pour n'importe quelle institution.
Non, là, ils cherchent les meilleurs taux tout le temps.
C'est
hein.
ça. Meilleurs taux et les meilleures conditions aussi. T'sais, si toi, tu es quelqu'un qui veut faire, mettons, un remboursement anticipé, ben il y a des prêteurs qui sont plus flexibles là-dessus, d'autres moins. Fait que si tu vois un courtier hypothécaire, lui, il va dire exactement c'est quoi ta capacité maximale d'emprunt. Puis le gros astérisque qu'il faut toujours mettre là-dessus, là, c'est mot-clé dans la phrase, c'est maximal. Là. Ça, généralement, c'est pour ça qu'un courtier peut t'expliquer ça mieux que la banque.
Il y en a qui l'ont appris à la dure que maximal, à un moment donné, s'il y avait des ouais. variations de taux d'intérêt, soudainement, tu n'es plus capable de le payer. Là.
Parce que quand la banque te dit, mettons, là, toi, ta capacité d'emprunt, c'est 479 000, là, elle ne dit pas « magasine-toi une maison de 479 000 ». Elle dit « le maximum que nous, on peut tolérer comme risque en tant qu'institution sans qu'on pense que tu tombes en défaut sur ton paiement ». C'est 479 000. Fait que c'est pas pour toi, ce calcul-là. Là. C'est pour eux autres. Là. C'est le risque qu'ils prennent. Fait que si tu es à 479 000, magasine en dessous de ça. Là. Parce qu'à 479, ben, ça veut dire qu'à seconde où tu as un imprévu ou tu as un autre compte qui augmente, tu es dans le chenoute solide. Là. C'est vraiment un maximum. Là.
Puis la banque, dans ses explications et ses propositions, va servir ses propres intérêts avant de servir tes intérêts à toi.
Oui, puis c'est pas mauvais en soi. Il faut juste être toujours conscient de OK, comment fait son argent la banque. Mm-hmm. C'est bien plus payant pour une banque d'avoir un client qui est endetté que d'avoir un client qui accumule du passif. Fait que une fois que tu comprends cette logique-là, t'es plus payant pour eux endettés. Fait que les conseils puis les calculs qui sont présentés vont suivre cette tendance-là. T'sais.
Parce qu'il y a bien des gens qui se réveillent trop tard. C'est une bonne question, ça. À partir de quel taux d'endettement t'es dans marde?
Il y a un taux d'endettement. Puis à base, c'est quoi un ratio d'endettement? Là? Essentiellement, là, c'est un calcul qui prend, OK, combien d'argent il rentre?
Oui.
C'est quoi mes revenus? C'est un calcul de mes dettes par rapport à mes revenus. Fait que, tu sais, mettons, au Canada, là, ça, il y a des taux. Je sais que c'est un taux de 2023. Là, fait que c'est peut-être un petit peu différent en 2024. Là, mais le ratio d'endettement, là, c'était 185% au Canada, en moyenne. Ça veut dire que pour chaque pièce disponible, on en doit 1,85. Ça inclut l'hypothèque.
Mm-hmm, okay.
Il faut quand même le considérer.
Ouais.
Par contre, ça exclut aussi 30 % des ménages canadiens qui ont fuck all de dette. Là. Mm-hmm. Zéro dollar, pas d'hypothèque, pas de paiement, rien. Fait que ça veut dire qu'il y a un 70 % qui est extrêmement endetté. Fait que généralement, les prêteurs, là, ils considèrent entre 39-44% de ratio d'endettement comme étant un red flag. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas te passer de l'argent. C'est juste que, mettons, ça va être pas mal plus difficile pour toi de passer que quelqu'un qui serait en dessous de là, en dessous de ça. Ce que je dis toujours, là, c'est au-delà du ratio, puis tu calcules bien têteux, là, l'endettement devient un enjeu à seconde où tu t'en soucies. Là. Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui ont des petits montants qui traînent sur des cartes de crédit, des petits montants qui traînent sur des prêts de meubles, d'affaires de même,
ouais.
Que ça les stresse. À seconde où tu es stressé, là, c'est pas normal. Là. Il y a un enjeu, puis il faut qu'on le prenne en considération. Là. Fait qu'au-delà du ratio, il y a toujours ça. Il y a du monde, des fois, que tu regardes leur bilan, t'es comme, tu devrais être stressé. Là. T'es pas assez stressé à la situation. Là. Fait que t'as l'autre extrême de ça. Là.
Ouais, mais... parce que c'est ça. Tu sais, t'as des gens qui sont moins stressés que d'autres. Puis je veux qu'on touche un peu cet aspect-là aussi. Tu sais, il y a des gens à un moment donné, il y a une crampe au cerveau qui le pogne, puis « Ouais, moi Alex, là, je vais me lancer dans le Bitcoin. »
Ouais.
Ouais. Ou « Moi, je me sens correct, là, je vais aller jouer à la bourse un peu. » Quelqu'un qui se lance dans ces beaux projets-là en 2024, là, sans être encadré, puis qui te dit ça, là, « Ouais, moi, j'ai le goût de jouer un peu. » Tu le files comment, mettons?
Ben, écoute, moi, là, tu sais, il y a de plus en plus d'investissements autonomes. Puis il y a beaucoup de monde qui font ma job, qui essayent de diminuer ça, puis qui disent « Hey, ben c'est pas bon, parce que sacrifice, le client qui le fait de façon autonome, ben il me paye pas. »
C'est mieux si t'as besoin de mon aide pour fait moi, t'sais, là,
tu sais. C'est clairement pas bon pour moi. Par contre, tu sais, mettons, l'autre fois, j'ai rencontré un client, là, que lui, là, il me disait, parce qu'il a entendu la chronique en plus, puis, fait qu'un de
ça, c'est les meilleurs, ça. Oui, ah, ouais. Les meilleurs clients.
Fait que,
oui.
Évidemment, il y a une couple de millions, il y a un gars bien plein. S'il y a des annonceurs qui écoutent, là, il y a une couple de millions, il est très...
Il n'y avait rien quand il a commencé à écouter Boulevard.
Exact.
Puis là, il a placé à Boulevard avec sa petite entreprise, devenu multimillionnaire.
Exactement.
Ouais, passez le mot, les amis.
Fait que, tu sais, lui, là, il me parlait de son portefeuille qu'il avait sur Wealthsimple, puis il m'expliquait sa répartition géographique, puis il a pas besoin de moi, là. Fait que, tu sais, j'étais bien à l'aise parce qu'il avait besoin de planification financière, tu sais, à honoraire, là, que j'ai fait une planif fiscale, ça fait la même, et il gérait ses placements lui-même. Fait que ça, c'est bien parfait, ça me dérange pas. Il y a un marché pour ça. Mm-hmm. Par contre, il y a du monde qui, encore, ils ont de la misère avec Célie, Réal, et tout ça. Fait qu'il y a un marché pour éduquer ce monde-là aussi, puis les aider. Fait que quelqu'un qui me dirait, hey, moi, je me lance autonome, puis je vais juste être cool, c'est bon. Puis ça me dérange pas parce que moi, prendre un client qui n'a aucune connaissance, puis l'amener au point où il se dit « Hey, je pense que je suis capable de gérer mes affaires, soit mon portefeuille au complet ou soit une partie », ben, crime, ça veut dire que j'ai fait ma job.
Ouais. Puis en même temps, il y a des modes aussi. Tu sais, maintenant, là, dans deux semaines, là, tout le monde voulait faire du Bitcoin. Là.
Ouais.
Ça, faut que tu deviennes un peu prévenant dans une certaine mesure quand il y a des affaires qui pognent en feu. Puis normalement, quand ça pogne en feu, il est déjà trop tard.
Oui, bien, tu vois, nous autres, on a une partie de notre job. Puis ça, c'est super touché. Là. Des fois, quand tu sens que des personnes prennent des décisions irrationnelles
okay.
ou qui agissent sous les ordres d'une autre personne externe, ben, au niveau déontologique, tu es supposé agir là-dedans. Là.
Ah ouais?
Ben, ouais. Parce okay. que si moi, comment? Un client. Ben, moi, si un client m'écrit et il dit hey, je veux faire un retrait de 50 000 puis l'envoyer à ma blonde dans tel pays, ben si je fais juste signer en bas de la fin. Fait que tu sais, ouais. au niveau déontologique.
J'ai entendu un gars à radio là, dire qu'il investissait dans le Bitcoin puis qu'il était rendu riche, fait que je vais me lancer dans le Bitcoin parce que j'écoute beaucoup la radio.
Ouais. Fait que
tu peux intervenir.
Ben, c'est là où, tu sais, mettons, c'est très théorique, là. On n'a jamais eu de cas comme ça. Puis je ne connais pas de gens qui ont eu des cas comme ça, là. Mais dans l'AMF, là, t'es supposé agir si jamais t'as l'impression que, hey, il y a quelque chose de pas clean là-dedans, là. Faut que t'investigues ça.
Bonne question de Kevin qui vient de nous texter. Si vous avez des questions, 418-971-1021. Quel pourcentage de salaire on devrait mettre dans les dépenses superflues?
C'est Alex Leblanc, il va te répondre zéro. Vraiment ça.
Non, mais mettons que tu vas avoir une vie comme. Tu vas avoir une vie point en fait.
Tu demandes pour une amie, Audrey?
Oui, pour une amie.
Non, mais je me dis, quelqu'un qui, par exemple, a un budget de sortie toutes les fins de semaine. Je pense à mon chum Max. Peut-être qu'à un moment donné, il aimerait ça continuer de sortir, continuer d'avoir du fun, mais arriver à la fin du mois, peut-être commencer à checker c'est quoi le pourcentage que je mets là-dedans. Je trouve que la question est bonne.
Moi, je le vois à l'envers. On a déjà parlé là, du principe de se payer en premier. Oui. Là. L'idée, c'est que si, mettons, on prend l'épargne, si tu épargnes toujours ce qui reste à la fin du mois, le crime, il ne restera rien à la fin du mois. Parce que hier, on était lundi soir, je pensais pas aller manger des ribs chez mon ami puis aller au bar laitier, mais c'est ça qu'on a fait. Fait que tu sais.
Hey, du filet lousse.
Ah, là, c'était cœur.
La totale.
Fait que tu sais, s'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui va briser, quelqu'un qui va t'inviter quelque part, puis il n'en restera pas. Fait que tu sais, tu priorises ton épargne, établis un pourcentage avec lequel tu es à l'aise. Ça, c'est la base. Une fois que ton taux d'épargne est rempli, là, que ce soit 10, 15, 20 % whatever, ce que tu fais avec le reste de ton argent...
Ça t'appartient.
Là, je pourrais pas plus m'en foutre là, que tu t'achètes des n'importe quoi. Là. Fait que moi, je le vois toujours comme ça.
Okay.
Et une discipline d'épargne que tu priorises, le reste, là, écoute, tu peux collectionner des nids. Ça me dérange pas. Là. Fait que moi,
t'es
je
correct,
le vois
Denis, avec
ça.
Tes figurines de lutte?
Ben, je pensais plus à mes Legos. Tu sais, quand tu penses à une passion qui coûte cher, là,
ouais.
Mes Legos me rendent heureux, mais mes Legos me coûtent cher.
Ben, tu vois, moi, je me sens tout le temps mal. Là, quasiment à chaque matin, puis là, j'essaie d'arrêter parce que c'est juste ridicule, mon affaire. Là. Je pense que tu sais de quoi je parle, Véro. Je m'achète un matcha latte glacé. Là. Ça coûte 7,87.
Tous les matins?
Quasiment.
Mais
c'est l'affaire, la meilleure affaire que tu as bu de ta sainte vie. Là.
Mais
j'épargne déjà un pourcentage substantiel de mon salaire. Fait que ce que je fais avec le reste, ça que ce soit ça, que ce soit un abonnement à n'importe quelle affaire, c'est correct parce que j'ai déjà fait ma part épargne, ma part planification financière. Fait que moi, je le vois toujours comme ça.
Il y a quelqu'un qui vient de nous envoyer des chiffres, puis je veux que tu commentes si c'est un reflet de la réalité pour vous autres, les planificateurs financiers. Quelqu'un qui nous texte, 10 % peuvent gérer leur portefeuille eux-mêmes, 10 % sont des gamblers, puis les 80 % qui restent, c'est des gens qui ont besoin d'une planif ou d'un gestionnaire de portefeuille.
C'est des chiffres qui font du sens. 10, 80, je dirais que oui. Tu sais, nous autres, on a... Puis même dans ton 80, là, des fois, il y en a que ils ont une peur absolue de gérer ça de quelque manière que ce soit.
Il y aurait peut-être une capacité, mais eux autres, ils s'embarquent même pas là-dedans.
C'est ça. Fait que je peux pas y valider, mais je te dirais que ça fait du sens. C'était un 10 % quand tu regardes les chiffres d'augmentation des comptes de courtage, puis tout ça, là, ça ressemble pas mal à ça. Mais tu vois, j'ai déjà lu, je pense que c'est la semaine passée que j'ai lu ça, là, puis là, côté-moi pas là-dessus, parce que c'est peut-être pas ça, là, mais je pense que c'est seulement 16 % des gens qui ont un conseiller dit indépendant, là, fait qu'il n'est pas relié à une institution financière, puis quelque chose du genre 31% qui en ont avec une institution financière. Fait que tu aurais dans le portrait global là, à peu près 50% des gens qui ont un accompagnement, mm-hmm. puis un autre 50% où soit ils s'en occupent eux-mêmes ou soit il n'y a juste rien qui est fait. Là.
C'est une question qui est bien précise pour un cas précis, mais en même temps, je pense qu'on peut rebondir là-dessus concernant les choses qu'on peut et qu'on doit rembourser en premier. Quelqu'un qui nous écrit, il dit, écoute, il dit 2 200 $ par mois de revenus, papa solo, pas de pension alimentaire, c'est-tu possible de clairer une dette de 10 000 sur une carte de crédit?
Oui, c'est possible, mais c'est pas facile.
Ça doit c'est ce qui presse le plus. Faire, hein?
Ouais. Ben, pour les remboursements de dettes, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui s'appelle la méthode Snowball, là, boule de neige. Cette école de pensée-là dit la dette, c'est pas mathématique, c'est comportemental. Fait qu'eux autres disent OK, prends ta dette la plus petite, peu importe le taux d'intérêt, priorise celle-là. Après ça, la deuxième, la troisième. Parce que...
C'est quoi? C'est l'accomplissement d'avoir réussi à clairer une dette,
ça.
Dans le fond?
C'est satisfaisant. Tu sens que tu as fait de quoi, que tu as accompli quelque chose. Ça fait pas vraiment sens au niveau mathématique, mais ça fait du sens au niveau comportemental. L'autre méthode, c'est de dire, ben garde, je prends celle qui a le plus gros taux d'intérêt, mm-hmm. je claire celle-là avant.
Claire ma carte de crédit avant de clairer d'autres choses.
C'est ça.
En tout cas, moi, je serais de cette école-là, là, en partant. Là.
Je suis de cette école-là aussi pour un point de vue mathématique, mais l'autre n'est pas... Et pas folle non plus.
Si
là.
C'est ta seule manière de te motiver à clairer tes dettes, ça vaut la peine, j'imagine, de l'essayer pour ceux qui n'ont jamais été capables de le faire.
Mais pour les cartes de crédit, là-dessus, là, y a un paquet de manières de rembourser une dette. Puis là, encore là, ce n'est pas un conseil à ce cas-là précis, là, mais des fois, il y a des transferts de solde qui sont possibles. C'est pas magique, mais si tu es capable de transférer ton solde de 21% à 12%, déjà là, tu as fait un gain. Des fois, dépendamment s'il y a un renouvellement hypothécaire qui s'en vient, il y a peut-être manière de...
Quand tu dis changer le solde, c'est-tu, mettons, emprunter le montant pour rembourser ta carte de crédit, puis là, tu dois de l'argent directement, mettons, à la banque sous forme de prêt? Ou...
Des fois, il y a des cartes qui... Tu sais, ultimement, là, les émetteurs de cartes de crédit, là, si, mettons, je te donne un exemple. Quand on dit que le crédit, c'est comportemental, là, moi, je suis un émetteur de cartes de crédit, je m'appelle Boulevard, whatever. Puis je sais que toi, là, Audrey, tu as 12 000 sur ta carte de crédit à 19,99. Moi, je te fais un deal où je te dis, hey, ton 19 000, là, viens le mettre sur ma carte à moi, on fait un transfert de solde, je vais te charger juste 12,99 ou 11,99 pour les 6 premiers mois. Je te fais un cadeau, mais moi, je sais très bien que, hey, le crédit, c'est comportemental.
T'es un mauvais payeur. Tu vas être mauvais payeur chez nous.
Tu viens de te raquer 12 000 sur ta carte de crédit, tu vas faire la même affaire chez nous. T'sais. Fait que c'est pour ça que toutes ces choses-là, là, moi, je dis toujours, ça, là, ça nous règle à court terme le problème. Ultimement, le problème, il est comportemental. Fait qu'il y a un paquet de manières là, de réduire les soldes de carte de crédit, là, mais faut toujours penser, tu sais, c'est toujours le... C'est-tu le symptôme ou le problème, là? Faut... OK, on peut régler le court terme, là, mais faut déterminer pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là. Puis ce que je dis toujours, là, c'est tous ceux qui ont des gros soldes... Puis ça, personne ne le fait en passant. Là, j'ai un taux d'efficacité de 0% là-dessus. une fois que tu l'as clairé, ta carte de crédit, là...
Et que tu as le goût de la remplir.
Ah, elle existe
plus, cette carte-là. Comme si
t'as du cash. T'as ferme, là.
Ouais.
Ouais, mais mon dossier de crédit. Ouais, non, t'es pas capable de gérer du crédit. Mm-hmm. Ça, je m'en fous de ton crédit, là.
Ouais.
Tu te fais mal toi-même sur ton dossier de crédit, de toute façon.
Ben oui, c'est ça. Fait que diminue ta limite à 1 000 $ ou... Mais tu sais, t'es pas capable de gérer le crédit, là. Puis ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre souvent, là. Mais c'est une réalité.
On a parlé de ça dans une chronique ensemble dans les dernières semaines, Alex. C'est-tu la cote de crédit? J'ai-tu la bonne expression, là? Le truc que tu peux aller voir, là, qui te donne une note bizarre, puis tout ça, là. C'est ça, cote de crédit?
Cote de crédit.
OK. Quand ta cote de crédit est pas yaud, tu sais, il y a peut-être des gens qui sont allés voir après notre conversation, puis tout ça, puis si tu te rends compte que ta cote de crédit est pas très bonne, t'es-tu genre pogné avec ou il y a moyen de faire d'améliorer ça rapidement?
T'es pas pogné avec si tu te mets à avoir une bonne discipline dans le remboursement de tes comptes. Fait que un cellulaire, une hypothèque, des paiements minimums sur des cartes de crédit, ça va augmenter ton crédit tranquillement pas vite.
Okay.
Une technique qui...
Mais ça se fait pas en 2 mois, là.
Non. Tu sais, ça se met normalement, là, moi, mettons, je reçois un avis à chaque mois, ta carte de crédit a augmenté, diminué de 5, 10, 15 points, whatever. Ce que tu peux faire, puis encore là, ça, c'est pas une recommandation parce que c'est danger, là. Un des facteurs qui considère une des manières de calculer le score, c'est ton utilisation du crédit. Fait que si tu as 1000 pièces de crédit disponible, mais que tu as un solde de 1000 pièces, ben ton taux d'utilisation de crédit c'est 100%. Mm. Si tu as 1000 pièces de solde de carte de crédit, mais que tu as 5000 de lousse, ben tu as 5000 de capacité, ben là ton taux d'endettement c'est le même 1000 pièces, mais c'est rendu 20%. Fait que tu sais, d'avoir beaucoup de crédit qu'on n'utilise pas, ben ça envoie le message au prêteur que hey, ce gars-là il pourrait s'endetter au coton là, mais il le fait pas. Mais encore là, le crédit étant comportemental, la majorité du monde qui ont 30 000 piastres de crédit qui traînent à terre vont l'utiliser. Mmh. Fait que c'est un couteau à double tranchant.
Parce que là, sur le texto, on nous dit « Si je remplis ma carte à chaque mois, mais que je la vide à chaque mois, c'est OK, ça? »
Oui, si. Ce qui est dangereux pour les cartes de crédit, là, c'est les soldes en dormance là, qui restent là, pendant 2, 3, 4, 5 mois. C'est ça le gros problème. Là. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait ça, là, moi, je fais ça, je paye... Ma carte de débit, moi, j'ai rien dans mon compte chèque. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Je pense que j'ai genre 17 piastres dans mon compte chèque.
Mais t'as souvent des espèces de redevances carrément quand tu utilises des cartes de crédit, des bonus dollars, etc., etc. Fait que souvent, il y en a qui vont le voir comme étant plus avantageux. Là.
Exact.
Fait non, c'est juste parce qu'il se ruine avec des matchas là-dedans. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas une scène dans son compte.
Non, j'ai mis ma carte de crédit. Fait que je sais exactement c'est quand ma paye rentre. Je sais exactement tout passe le premier sans exception. Fait que juste besoin d'argent à ce moment-là. Le reste, ben, j'utilise ma carte quand je la paye.
Okay.
Je paye la carte, fait que je fais exactement comme le gars.
Fait que puis, tu pourrais avoir, mettons, 5 000 $ sur ta carte de crédit tous les mois, mais tant que tu payes le solde minimum, t'es
correct? Tant que tu le payes au complet.
Faut que tu le payes au complet. Fait que les gens qui payent juste le solde minimum ont quand même un mauvais crédit.
Le solde minimum, là, c'est la plus grosse illusion de l'histoire de la planète.
C'est pour te faire croire que ça va bien, mais ça va pas bien.
Ça t'évite un défaut, mais... Encore là, mettons que je suis un émetteur de carte de crédit. Là. Moi, la personne qui paye le paiement minimum, là, c'est mon meilleur client. Mais, je suis en amour avec.
La personne qui n'arrive pas, son premier réflexe, ça va être de s'acquitter de son montant minimum, puis après ça, de passer aux autres paiements.
Oui,
tu
oui.
dis que c'est pas une bonne stratégie?
Ben, je veux dire, enfin, je vois pas de manger. Tu as toujours la réalité mathématique. Puis la vraie vie, là, des fois, les deux ne se parlent pas. Là. Nous autres, on a toujours l'aspect très froid, rationnel, mathématique. Faut être conscient que ça ne s'applique pas toujours. Là. Pour un client qui est dans le trouble parce qu'il a juste agi en imbécile, tu en as des fois que hey, je suis rendu monoparental, j'ai perdu ma job. Ça peut être la même situation sur papier. C'est pas la même game, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il y a toujours ça qu'il faut considérer, là.
Hey, une petite dernière pour la route, Alex. Elle vient d'Alain, mais j'ai quasiment le goût de dire que Véro, Audrey et Denis veulent savoir aussi. Combien d'économies ça prend pour atteindre l'autonomie financière?
Ça dépend de tes dépenses.
Ça te coûte rien vivre, t'as besoin de moins d'argent que quelqu'un qui a un train de vie.
C'est toujours la même affaire, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dessus pour aller chercher un chiffre, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Là. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, hey, à partir de combien je peux dire... ce qu'on appelle un peu le « fuck you money », de dire « OK, ben je me lève le matin, si je travaille, c'est parce que ça me tente, mais je vais pas me tuer à l'ouvrage. »
Je suis pas stressé avec ça.
C'est ça. Connaissez-vous ça, le mouvement FIRE?
Non.
FIRE, c'est Financial Independence Retire Early. Okay. Fait que c'est du monde qui met un gros pourcentage de leur revenu de côté, puis eux autres, ils ont un chiffre en tête qui disent « OK, j'atteins ce chiffre-là à 35, 36, 37 ans.
Ciao, bye.
C'est un jeune retraité.
C'est mon chiffre d'indépendance financière. Mm. Il y a un paquet de calculateurs en ligne pour ça. Fait que tu fais, mettons, FIRE Calculator, puis tu mets, puis encore là, c'est pas un conseil financier, là, mais ça te donne une idée. T'sais. Fait que tu mets ce que tu as présentement là-dedans en actif, ce que tu as en passif, tes revenus, ton pourcentage d'épargne, tes dépenses, puis ça va dire, OK, mettons, toi, Denis, si tu as 625 000 dans tes comptes parce que tu dépenses pas beaucoup ou whatever, ben tu peux dire, je suis financièrement indépendant. Rendu là, ça dépend toujours de... Ouais. Faut pas que tu te mettes à dépenser 4 fois plus après. Là,
c'est
sinon
ça.
Le calcul ne marche plus. Tu
n'as pas gagné à l'auto. Là.
C'est ça. Mm. Fait que, des fois, il y en a que c'est un tout petit montant parce qu'ils n'ont pas beaucoup de dépenses puis ils ont pas des idées de grandeur. Pis c'est correct. Il y en a des fois que ils veulent voyager, ils veulent faire un paquet d'affaires. Fait que c'est un plus gros montant. Ça donne un ballpark. C'est toujours ça que je dis. Là. Ça donne, OK, c'est à peu près ça que j'ai besoin. Puis ce qui est cool, c'est tu peux le calculer. OK, mettons que c'est 670 000. Je reprends le même chiffre inventé que ça me prend. Bien, on est capable de calculer. OK, ça me prend ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK, ouais. Si tu mets X piastres par mois, X piastres par semaine, X piastres par paye, tu peux accéder à ce but-là dans 10, 20, 30 ans, peu importe.
Puis il faut que tu aies une certaine discipline. Je connais, moi, des gens qui ont réussi à le faire, devenir autonome financièrement entre 40 et 45 ans, puis le restant du temps, ils travaillent quand ils ont le goût, puis quand ils n'ont pas le goût, ils font d'autres choses. Mais ça prend une discipline de faire Moi, je suis pas un gars discipliné. Ma discipline, c'est ma routine. Ouais. Si je viens travailler puis que j'ai besoin de ma paye, tu sais, ça me force à aller travailler. La journée où je me déclare autonome financièrement puis j'ai plus besoin de travailler, je vais partir sur une balloune pendant un an et demi, puis après ça, je vais te rappeler. Je vais dire, là, Alex, je suis dans la merde, ça marche pas. Ouais. Tu sais, il faut se connaître un petit peu aussi, je pense, avant de se lancer dans un projet comme celui-là. Là.
C'est clair qu'il y a ça, mais les gens qui atteignent ça le plus rapidement, là, c'est des gens qui ont établi une structure tôt. Mettons, ils ont établi une structure à 30, 32, 33 ans, puis qui n'ont jamais inflationné leur niveau de vie avec l'augmentation de leurs revenus. Fait que les revenus augmentaient naturellement parce que des fois, c'est des conventions collectives. Des fois, c'est juste une bonne job, une promotion. Mais eux autres, la maison, sont bien dedans. Le char, il roule. Tu sais, ils n'ont pas inflationné au même rythme que leurs revenus. Fait que le pourcentage d'épargne a toujours augmenté. L'intérêt composé, puis le temps a fait son effet. Puis souvent, c'est du monde qui arrive à 37, 38, 39 ans qui n'ont plus besoin de travailler. Quand ils regardent, ils ont l'air cassés en sacrifice. Là, le Elantra 2014, là, ils ne flashent pas. Là.
Ouais.
Mais
c'est un choix de vie.
Ils sont pas mal plus riches que bien du monde qu'on voit sur la route présentement.
Alex, merci beaucoup. T'as-tu une formule magique pour la base des bonnes finances? T'as-tu quelque chose qui ferait en sorte qu'on n'aurait plus jamais besoin de toi, genre ever?
formule magique, je te dirais, se payer en premier.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première affaire.
Ça, tu reviens beaucoup avec ça. Ouais.
Ben, c'est le fait d'automatiser son épargne.
Mm-hmm.
Faut que ça se fasse tout seul. T'as pas à y penser. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième, c'est réduire au minimum sa fiscalité en utilisant les cheat codes que le gouvernement nous a donnés. Moi, j'ai toujours la même affaire, là. C'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec, mais un bon pourcentage de l'impôt qu'on paye, c'est un choix. C'est pas une fatalité.
Tu nous as donné les cheat codes dans une chronique précédente. Ouais. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, là, allez fouiller dans nos affaires sur l'application Boulevard au blvd.fm pour retrouver ça. Il y a des trucs intéressants là-dedans. Là.
Parce que année après année après année, ben, l'intérêt composé, c'est le même principe.
Mm.
L'argent qui n'est pas entre les mains du gouvernement, il est entre tes mains à toi. Puis ce serait ça. Paye-toi en premier, automatise ça, puis optimise ta fiscalité à chaque année. T'es en voie sur le chemin.
Hey, thank you, Alex.
Yes.
Alex Leblon, qui est planificateur financier, 17h06. Fait chaud, fait chaud. Fait très chaud. On a 31 degrés présentement à Québec, qui file comme un 41.